Oui, bonjour, je suis Alain Rosenfeld du GRIP. J'ai une question à Monsieur Paulin. Donc, c'est voir si votre réflexion se porte aussi sur le marché de l'armement d'occasion. Est-ce que le coût environnemental est envisagé, par exemple, dans un pays comme la France, disons, est-ce qu'il y a des clauses dans le transfert, des clauses par rapport à l'environnement? Merci. Cédric, alors sur les coûts.
J'aurais du mal à savoir si dans l'exportation de matériel d'occasion, on intègre, il y a des clauses environnementales. Par contre, il me semble qu'un certain nombre de matériel, disons que le marché de l'occasion fonctionne entre autres pour éviter de démanteler chez soi certains armements. J'ai vu passer une étude du ministère de la Défense français sur le sujet et il me semble que c'était souligné et l'Assemblée nationale en France ou un rapport spécifique sur le démantèlement des matériels en fin de vie soulignait le lien plus ou moins fort qu'il pouvait y avoir entre les deux marchés, entre marché de l'occasion et démantèlement. C'est en fait un moyen de se débarrasser avant vraiment la fin de vie, de se débarrasser de certains matériels. Et là-dessus, il pourrait y avoir des avancées, en fait, d'éviter d'exporter du matériel de guerre à partir d'un certain âge, en fait. Et on retomberait sur la question de la durée de vie. Au-delà d'un certain âge, on peut considérer que le matériel est passé de l'autre côté de on va dire, de sa phase active, pourrait toujours être utilisé dans le pays qui l'a produit, en l'occurrence la France, mais ne pourrait plus être exporté. Ça me paraît dans les pistes possibles, en fait.
Mais il n'y a pas encore de réglementation à ce sujet.
Il ne me semble pas qu'il y ait de réglementation. À partir du moment où c'est un matériel de guerre, il tombe dans le cadre de la souveraineté de l'exportation, donc en France par la commission d'études des matériels de guerre, commission d'études pour l'exportation des matériels de guerre. Donc s'il est toujours qualifié comme matériel de guerre, les normes environnementales ne s'appliquent. On ne peut pas dire qu'elles ne s'appliquent pas, mais ça ne va pas être un des critères.
Ça va, vous êtes un. Oui, bon.
Eh bien, faites vendre le foch avant le clémenceau.
Oui, c'est à vous.
Bonjour, Benjamin Goncalves, Europe for Peace. Je fais juste une petite précision d'ailleurs sur Europe for Peace. C'est bien Europe for Peace et pas uniquement, pardon, et pas uniquement paix en Europe. Voilà, juste pour ça. Je suis assez surpris en fait d'entendre parler d'armement, enfin, comme d'un bien de consommation. On parle là de marché. Alors je sais que ça existe, que c'est une réalité, mais j'ai l'impression aussi que ça nous emmène vers une sorte de banalisation. C'est normal. C'est un bien. On a là cette préoccupation de la durée de vie, hein, que je comprends dans l'aspect mathématique. On a cette préoccupation de l'utilisation. Et alors, je me sens assez atteint parce que là, on est en train de parler de ma propre durée de vie. Comprenez ce que je veux dire? Et dans les calculs, puisque ça a été le thème, hein, désolé, Monsieur Paulin, j'ai rien contre vous, mais je trouve l'idée intellectuellement intéressante, mais humainement plus que troublante. Voilà, enfin, du coup, je vais pas vous cacher que je viens d'être un peu débordé par mon émotion de cette durée de vie. Oui, si dans le calcul, dans ce calcul, pardon, est-ce qu'on a inclus, par exemple, enfin, sur la durabilité des impacts, est-ce qu'on sait encore aujourd'hui, par exemple, chiffrer les conséquences d'un Hiroshima sur la santé? Parce que ça a un coût aussi. Je crois que c'est tout, parce que sinon je vais vous faire déborder.
Cédric, je crois qu'il y a quelque chose à dire là sur ces considérations.
Oui.
Je voudrais juste dire au passage qu'on utilise aussi le mot de génération pour tout genre de système d'armes.
Je comprends bien qu'un tel exposé pouvait avoir un aspect assez froid et qu'il partait du principe que... disons que je suis parti du principe, et on m'a demandé aussi finalement ça, que les choses étant ce qu'elles sont, l'armement étant ce qu'il est, que l'armement est là, comment on fait pour intégrer les questions environnementales dans les programmes d'armement. Alors soit on peut peut-être se dire, comme je l'ai dit au début, l'armement est conçu pour détruire, et donc tout cet exposé est totalement antinomique. C'est un point de vue qui se défend. J'aurais moi quand même tendance à penser que c'est, disons honnêtement, c'est pas mon point de vue. L'armement est là, les programmes d'armement sont là, il y a des financements, de l'argent public derrière, il y a des entreprises. Donc l'objet armement, il est là. Il peut être discuté hein, philosophiquement. Donc est-ce que l'alternative, elle est soit finalement c'est un mal, donc on ne lui intègre pas du tout l'environnement, on n'essaye pas de réfléchir à la question, soit bon, il est là quand même, et est-ce qu'on ne peut pas malgré tout mettre un peu la question environnement?
Bien. Juste pour dire que j'avais bien compris en fait que votre exposé ne partait pas de vous-même, entre guillemets.
Oui, je crois que Luc, tu veux dire quelque chose là-dessus?
Et peut-être brièvement, quand vous évoquez la notion de marché par rapport à l'armement, il est clair que, effectivement, je ne partage pas du tout cette approche. Et quand j'écris beaucoup sur les questions d'industrie et d'armement, je mets « marché » entre guillemets quand je parle du marché de l'armement. Mais il faut bien être conscient qu'on va à contre-courant de tout ce qui se passe aujourd'hui. Quand on voit la politique de la Commission européenne aujourd'hui, l'objectif, c'est de ramener l'armement dans le giron du marché commun. Et là, je pense que, effectivement, il y a un débat qui doit être posé, parce que si on veut qu'il y ait un marché, si on considère que l'armement a sa place sur un marché, qu'il y ait un marché de l'armement, si on veut que donc nos entreprises de l'armement soient compétitives, il faut accepter aussi que les lois de l'économie de marché s'appliquent à l'industrie de l'armement comme à n'importe quelle autre industrie. Ça veut dire que pour être compétitif, eh bien, les entreprises doivent croître, doivent vendre de plus en plus, doivent produire de plus en plus, doivent exporter de plus en plus, et j'aimerais qu'on m'explique comment concilier ça avec les politiques que l'on tente de mener par ailleurs dans le domaine de la coopération au développement, de la prévention des conflits, etc. Et donc je crois qu'effectivement, c'est une question à poser. Je pense que l'armement n'a pas sa place sur un marché, mais je pense effectivement que c'est une lourde tâche que nous avons devant nous si nous voulons aller à contre-courant de cette tendance.
Merci Luc. Je voudrais donner la parole à monsieur là derrière en... Oui, 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 c'est bon.
Ok, donc Michel Girand, donc FDD, j'avais juste, puisque le temps court, une petite question, deux petites questions. Si la réponse est oui à la première, je pose la deuxième. Pensez-vous qu'une pression citoyenne permettrait de faire avancer les choses? Première question. Si la réponse est oui, seriez-vous capable, les intervenants, voire même un certain nombre de participants, de nous fournir un résumé en une page maximum, si possible dans un langage classique, ordinaire de Monsieur Tout-le-Monde, de vos interventions, de façon à ce que l'on lance des débats en ligne par rapport à tout ce qui a été dit, si vous y êtes favorable, bien entendu.
Merci. Je ne sais pas si on peut faire du oui et du non tout de suite. En tout cas, on pourrait le faire pour ceux qui sont à la tribune. Mais je voudrais donner la parole à monsieur de la Bruyère.
Oui, je voudrais vous donner une ou deux informations, parce que j'ai de bonnes sources, et en particulier de la part de quelqu'un qui est sur cette table en face de moi, et qui me fait penser que finalement, cette espèce d'exaspération du phénomène de la productivité, de la concurrence, de l'efficacité, en matière militaire, porte en elle-même l'embryon de son propre échec. Je m'explique. Ça me fait penser un peu à la courbe de Phillips en matière économique. Vous savez, la courbe des rendements décroissants. Ça monte, ça monte, ça monte, puis à partir d'un certain niveau, ça s'effondre. On est allé trop haut. Et j'illustrerai ça avec quelques chiffres. Par exemple, en matière de consommation d'énergie fossile, Pendant l'opération Desert Storm en 1991, le soldat américain moyen consommait 4 gallons d'huile, enfin de pétrole par jour. En Irak aujourd'hui, il en utilise 4 fois plus. Et on estime que dans les années qui viennent, il arrivera à une consommation de 64 gallons par jour. Et si on fait un calcul, ça a été fait par certains auteurs, on arrive à la conclusion que le Pentagone pourrait consommer dans les 2-3 ans qui viennent 340 000 barils de pétrole par jour. Ça fait 14 millions de gallons. C'est supérieur à la consommation nationale totale de la Suède ou de la Suisse. Par jour, hein, par jour. Un autre indicateur, c'est une publication qui avait été faite il y a déjà un certain temps, puisque ça date de 2005, sur la consommation de munitions par les troupes américaines en Irak. En matière de petites munitions, petits projectiles, ils étaient arrivés en 2005 à la consommation de 1,8 milliard de munitions, de petites munitions. Et l'industrie américaine n'arrivait plus à produire suffisamment pour une guerre dont je vous rappelle que c'est une guerre absolument ridicule du point de vue tactique et opérationnel. Et en faisant d'autres calculs, on était arrivé à l'idée que s'il y avait 20 000 insurgés, c'était le chiffre qui était donné à l'époque par les autorités américaines, chaque soldat aurait tiré 90 000 munitions par insurgé. Ça donne des échelles de grandeur qui sont colossaux en termes de capacité du système à continuer à produire. Et si, comme les statistiques l'affirmaient à l'époque, il y avait eu 2 000 de ces 20 000 insurgés tués, ça voulait dire que pour chaque insurgé tué, on avait tiré 900 000 munitions. Et je pense qu'on arrive à une situation où, dans l'hypothèse d'un réel conflit, parce que l'Irak n'est pas un réel conflit, dans l'hypothèse d'un réel conflit, le système lui-même trouverait ses limites. On a quoi ? On a 22 bombardiers stratégiques américains B-2 aujourd'hui. Il y en avait 15 000 en 1945. Regardez l'échelle de valeur. Et je pense que dans l'hypothèse d'un réel conflit, le système bloque. D'où, effectivement, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, l'invention d'un nouveau paradigme européen pour prévoir des conflits dont nous n'inventons pas ex ante l'intensité avec nos moyens, mais que nous affrontons tel qu'il est, avec des possibilités, effectivement, de monter en puissance raisonnable. Donc, ce n'est pas une question, c'est une illustration.
Non, on avait compris que ce n'était pas vraiment une question. Mais je voudrais... Oui, monsieur Chair.
I'm afraid I do not... share totally the cynical optimism of Yves Molliard, but I would like to respond to a previous question, which was: is it possible for a citizen to actually stop the military to really misuse new technologies for military purposes? Is that really possible? And I would like to underline that at least this parliament, if it's representing the citizen, my experience is that the answer should be partly yes. After all, the HAARP hearing, the hearing on the HAARP system, which was organized in the European Parliament, it was organized on the request of the Foreign Affairs Committee. I was there. I know what is the history of this. And perhaps we have contributed at that moment, 98, to somehow stopping the HAARP project moving forward. It would have been much worse. And there are other,
do you have a specific question?
Well, I want to say that, yes, to ask, I mean, this is a question. I think it's quite natural that the military, that they use advanced technologies for military purposes, and that you should expect that some of these technologies have an impact on the environment. What else would you expect? This has been so since the beginning of the century. But there is a challenge. The challenge is, can we somehow develop a counterforce, which is then developed as by institutions like this one? Can we somehow prevent the military to actually misuse the technologies. I remind you that nuclear weapons are declared illegal by the advisory opinion of the International Court of Justice because nuclear weapons were found to be extremely dangerous for the health and for the environment. This Parliament has even voted last session a firm resolution on depleted uranium weapons, which I mentioned, because we want a ban against nuclear depleted uranium weapons because of their impact on the environment. We had resolutions on the sonar systems, the deep water sonar system used by submarines. There was a story in the press only last week about dolphins being killed again because of the Navy training. These are issues which in this Parliament I think completely say. I don't know if this is a question, but I want to underline, and there it is a question, perhaps also to the representative of the NATO here, do the military accept that there is democratic scrutiny of what is their use of military technologies, and do they accept that, yes, at some moments you have to stop the use of specific categories of weapons. I know that the use of weapons of depleted uranium in the NATO arsenals is now under interrogation. That they are taking them out of the arsenal.
It's okay. We have to stop. Thank you so much. Sure, but, and we will discuss this in the future in any way, but there's nobody, I think, from NATO who can answer your question about the citizen scrutiny. Philippe Grasset, I think you want to say something, so you have the floor, and you are the last speaker.
Oui, je voudrais revenir sur l'idée des armements dont vous avez parlé, etc. Quoi ça? Hein? On m'entend, là. Donc, revenir sur cette idée. Je pense qu'on est dans une époque tellement nouvelle, tellement folle, tellement en plein bouleversement, qu'il faudrait essayer de s'abstraire de la vision de l'armement qu'on a traditionnellement, qui est justifiée, mais qui est en train de changer complètement. Aujourd'hui, les armements qui tuent le plus sont les armements les plus primitifs du monde. Comme vous le savez bien, ce sont les mines, ce sont les Kalachnikovs, des choses comme ça. D'autre part, les grands armements qui coûtent cher. Essayez donc de comprendre leur rôle. Essayez de vous poser la question. La France a joué un rôle fondamental à l'ONU en 2002-2003. Si elle n'avait pas eu du nucléaire, des porte-avions et des avions de combat, qui est-ce qui l'aurait écouté? Personne. C'est parce qu'elle est une puissance militaire que la France a joué un rôle de paix dans cette période. C'est comme ça. Le monde est comme ça. Et il y a des moments où les armements sont des moyens de paix. C'est comme ça. Et c'est comme ça qu'il faut le regarder. Personne n'aurait écouté la France. La France n'aurait pas eu le droit de veto parce que c'est une organisation du monde qui est ainsi.